vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alléluia. Et l'expression que je veux relever ce matin pour chacun d'entre nous, c'est la gloire et l'honneur. La gloire et l'honneur. Ces deux mots sont souvent associés en parlant de Dieu. Et il y a plusieurs passages, au moins j'en ai relevé quatre, mais je ne vais pas les citer. Mais je vous en cite un seulement. C'est le psaume 96, verset 7. Il dit « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Alors c'est des mots, bien sûr, qui veulent dire certaines choses dans nos têtes. Et ce matin, je ne voudrais pas que ce soit juste une morale chrétienne, religieuse. Je désire que Dieu soit glorifié et que par nos dispositions de cœur, nous puissions honorer le Seigneur pleinement. Alléluia. Hein ? Gloire et honneur. Ils sont souvent liés et souvent utilisés dans la Bible de manière interchangeable, le mot gloire et honneur. Je ne vais pas faire des étymologies ou hébraïques ou grecques. Je ne sais pas, vous pourrez le faire vous-même. Mais il y a quand même une différence, je pense, subtile entre gloire et honneur. Je soulève cela. Ce n'est pas le sujet ce matin, mais je le dis. Et après, on va rentrer dans le sujet. Le terme le plus souvent traduit par gloire fait référence à une valeur inhérente, si vous voulez, intrinsèque de Dieu. C'est-à-dire, le mot gloire est vraiment, je crois, un mot propre à Dieu. Les hommes, ils n'ont pas trop de gloire. Les hommes, la seule chose qu'ils peuvent obtenir en gloire, c'est parce que Dieu fait grâce et que Dieu les visite. C'est ça, on peut glorifier Dieu en cela. Tandis que le terme traduit par honneur fait référence à la valeur perçue, hein, qu'on attribue à quelque chose. Bon, ça c'est, je ferme la parenthèse, c'est pas tellement ce que je voudrais voir. Ce que je voudrais voir avec nous ce matin, c'est le fait de, en deux points, le fait d'honorer. Honorer Dieu. Honorer Dieu. Et je ne vais pas développer seulement honorer Dieu, je voudrais d'abord dire que nous sommes invités à honorer tous ceux qui nous entourent, ceux qui sont là, le prochain. Et dans nos relations humaines, chrétiennes, nous avons cet encouragement à honorer le prochain d'une manière profonde, sérieuse. Et je vais survoler le premier point, honorer le prochain, pour entrer bien plus dans le second point, honorer Dieu et réfléchir, je dirais, à ces réalités, mais dire aussi, Seigneur, comme on l'a chanté, rien n'est possible par nos propres forces. Et je conclue presque, mais je ne conclue pas de suite. Hein. Rien n'est possible par nos propres forces. Et finalement, si je peux être fidèle à Dieu, parfois, pas toujours bien, c'est parce que lui me donne la force de le faire. Et souvent, on essaie de devenir quelqu'un en Dieu, par nos forces, mais Dieu nous invite à dire, fais attention, c'est l'inverse qu'il faut faire. Viens à moi, et apporte, et tu seras rendu capable. Parce que oui, à la croix, le Seigneur a triomphé, oui, à la croix. Jésus a manifesté sa gloire. Alors, je sais que vous êtes au fait de tout cela, tout ce que je vais dire, il n'y a pas de problème, mais c'est des choses à nous rappeler. Et la parole est souvent là pour rafraîchir notre mémoire ou stimuler notre foi et nous amener à comprendre les choses. L'honneur naît dans nos cœurs. Qui est né, pardon, dans nos cœurs, est lié à la valeur que nous attribuons personnellement à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. Par exemple, un collectionneur, il va tenir certaines choses en estime. Par exemple, s'il collectionne, je sais pas, hier, on a pris l'air avec mon épouse et je suis passé devant je me rappelle plus comment on dit ça. J'ai peur de tromper le nom, donc je vais éviter de le dire. Vous savez, les collectionneurs, les boutiques où il y a les vieilles pièces, les vieux billets, toutes ces choses-là, numismatiques, je sais pas ça, un truc comme ça. C'est énigmatique pour moi tout ça. Hein. Voilà, je sais qu'il y a des spécialistes. Moi, ça m'intéresse pas trop. Hein. Mais par contre, je suis toujours intéressé de voir un peu les choses et je me dis, ah ouais, ça c'était, j'étais né quand il y avait ce billet-là, celui-là non. Hein. Les collectionneurs tiennent certaines choses en plus haute estime que d'autres et je dirais, certains méprisent ce à quoi d'autres attachent une grande valeur. Hein. Et honorer, porter honneur à quelque chose, c'est dans ce sens-là. Mais dans les relations humaines, nous honorons les autres selon l'importance que nous attachons à leur position et à leur contribution. C'est-à-dire que selon la personne à qui nous avons en face, on va l'honorer d'une manière ou d'une autre. Et c'est les principes humains. Dans le Nouveau Testament, le mot grec « honorer », je regardais, c'est en grec, voilà, ça signifie « honorer »,« honneur », le prix, la valeur, le mérite, l'honnêteté, la dignité. Et je dirais, c'est employé 40 fois. Par exemple, ça a été employé dans le mot, vous savez, quand il est dit « vous avez été racheté à un grand prix », mais c'est le même mot que « honneur ». Quand il est fait mention que c'est sans aucun mérite de notre part dans Colossiens, c'est pareil, c'est « honneur ». Quand il est fait mention dans Hébreux, chapitre 5, verset 4, le fait d'être digne, d'avoir reçu une dignité, c'est dans le sens d'avoir reçu l'honneur. Donc, c'est difficile pour nous de traduire parce que ce mot-là, « honneur », a une connotation ancienne. C'est un peu flou, c'est un peu abstrait, et dans nos têtes, des fois, on peut être un peu décalé, ou on comprend le mot sans vraiment y entrer pleinement. Dieu nous demande, et là, je vais souligner, je vais rentrer dans les textes bibliques tout à l'heure, Dieu nous demande d'honorer les autres pour leur position, et non pas pour leur performance. Je répète, parce qu'il me semble que c'est important, Dieu nous demande d'honorer le prochain, et peu importe, je dirais, la personne, ses performances, mais pour leur position. Je m'explique. Par exemple, la Bible dira que nous devons honorer nos parents. Honore ton père et ta mère, hein, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La Bible invite vraiment, et Dieu le dit, honore ton père et ta mère. Hein? Donc nous devons honorer nos parents, et ce même si, pour certains, peut-être vous avez des parents qui vous semblent indignes, peut-être vous avez été même abandonné, et c'était difficile, etc. Et je ne vais pas rentrer dans une approche de relations humaines, etc. Ce n'est pas mon souhait ce matin. Dieu nous invite donc à honorer. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 6, et je me permets de survoler parce qu'on va aller dans les passages tout à l'heure, il va dire « Enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère aussi, dira-t-il dans un autre passage, hein, qu'il rappelle donc cet Ancien Testament. » Donc on voit bien que nous devons honorer nos parents. La Bible dira aussi, et je vais en omettre certainement, hein, la Bible dira aussi qu'il nous faut honorer les cheveux blancs. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Hein? Ça, la Bible le définit. Il y a plusieurs choses qui en parlent. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, j'essaye de faire le pendant à chaque fois, dans la première épître Paul au Timothée, chapitre 5, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte, et puis, etc. Et puis il ira plus loin, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Donc on voit bien qu'on pourrait encore gratter, creuser, chercher des passages où il est fait mention du mot d'honorer, du terme, honorer les autres d'une certaine manière. Il fait mention aussi d'honorer ceux qui dirigent dans les églises, par exemple, honorer sa femme, ça je le soulève parce que les messieurs, faut vraiment l'entendre, je me parle à moi le premier, mais moi j'honore bien ma femme, hein. Bon. Marie, montrez votre tour, je ne le laisse pas parler, comme ça je suis tranquille. Marie, montrez votre tour de la sagesse à vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Hein? Et il dira qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et tout à l'heure, on parlera peut-être de cet aspect-là. Donc il fait mention aussi d'honorer sa femme. Il fait mention d'honorer ceux qui nous gouvernent. Honorer le roi, dira-t-il dans 1 Pierre 2, 17. Et puis, un peu plus loin, un peu plus, je dirais, on est parti un petit peu des personnes qui ont une autorité dans la société, la Bible dit aussi que nous pouvons honorer nos frères et sœurs dans la foi. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. La Bible nous invite vraiment à considérer le prochain. Pourquoi ? Parce que la Bible nous révèle que Dieu nous a touchés par sa grâce. Et il nous a sorti un peu de tout notre égoïsme, égocentrisme, de notre manière de fonctionner, de notre péché, et il nous fait entrer dans ses sentiments à lui, il nous fait entrer dans sa volonté à lui, et il nous donne une autre manière de vivre. Il nous donne un cœur nouveau, il nous donne des sentiments nouveaux. Et le Seigneur veut agir en cela. La Bible conclut, je dirais ainsi, par ce texte, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et voilà, et il dira même dans Romains chapitre 13, verset 7, vous rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. En définitive, on comprend que chaque personne mérite l'honneur. Pas mérite dans le sens mérite parce qu'elle a bien fait, mais parce que c'est un être vivant de Dieu, voulu de Dieu. Hein, pour ce qu'elle est en tant que créature divine et non pour ce qu'elle fait. Hein. Cela ne veut pas dire que l'on cautionne ce que l'autre ou nous-mêmes faisons de mal. Quand on honore quelqu'un alors qu'il est dans son péché, c'est pas dans ce sens-là. Comme Dieu lui-même aime sa créature et désapprouve complètement son péché. Mais il aime sa créature. Et de même, nous aimons le prochain, non pas parce qu'il le mérite ou parce qu'il a telle couleur de peau ou parce qu'il a ceci, il a fait cela, mais parce qu'il est une créature de Dieu. Et en cela, je veux l'honorer. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce qu'il fait et cautionne tout ce qu'il fait, mais je suis conscient que Dieu peut faire grâce et que Dieu peut toucher son cœur. Alléluia. Hein ? J'espère que vous me suivez. Là, j'ai pris le TGV, je sais bien, on me dit toujours, tu vas trop vite. Écoutez, il faudra me donner des calmants pour que j'aille plus lentement, mais j'ai du mal à ralentir. Parce que je voudrais m'arrêter sur ce qui me semble essentiel. Honorer Dieu. Honorer Dieu profondément. Honorer Dieu profondément. On sait que dans l'histoire du peuple, on sait que dans notre histoire personnelle, on a honoré Dieu et parfois on a déshonoré Dieu. Le peuple hébreu traverse des temps difficiles et le prophète Ésaïe sera le porte-parole du Seigneur. Et le Seigneur dira-t-il dans Ésaïe 29, 13, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte de moi qu'il a de moi pardon, n'est qu'un précepte de traduction humaine. » Rien que ce verset, on pourrait développer plein de choses. Toutes les fois, où les uns et les autres, ou pas vous peut-être, mais peut-être plus certains que d'autres, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas de savoir. Ce qui m'intéresse de voir, c'est que toutes les fois dans la foi, on faiblit, on se rapproche plutôt de la religiosité, des pratiques. Alors on va à une réunion, etc., mais on peut ne pas y avoir le cœur. Et honorer Dieu, ce n'est pas honorer Dieu en apparence. Selon la Bible, c'est honorer Dieu de tout son cœur. Et il arrive que parfois, à cause des événements, des circonstances dans la vie de chacun, on peut honorer Dieu superficiellement, protocolairement, d'apparence. Et ce n'est pas obligatoirement parce qu'on est mauvais ou ceci, cela, c'est parce qu'on perd pied dans la foi et qu'on a besoin d'un renouveau de Dieu. Pour revenir et pour honorer Dieu, non pas en théorie, non pas seulement il faut que je pratique, mais avec un cœur rempli par la grâce de Dieu. Si, ici, il y avait un pseudo-honneur rendu à Dieu, mais le cœur n'y était pas vraiment. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que Dieu, lui, ne regarde pas tellement tu fais pas. Il regarde à ton cœur. Il regarde à mon cœur. Alors, des fois, moi, ça me dérange. Hein. Vous, non, moi, ça me dérange. Parce que je dis, là, Seigneur, ça ne va pas, là. Pardonne-moi. Le prophète Malachi dira ça aussi, et on pourrait prendre notre texte. Au chapitre 1, verset 6, « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom ? » Alors c'était un temps un peu difficile pour le peuple. Un temps où tout allait mal, même les sacrificateurs, ça allait pas bien. Hein. Et ici, il dit, mais si vous m'honorez comme des fils, et moi je suis le père, ben honorez-moi comme un père. Honorez-moi comme un maître, si vous êtes soi-disant mes serviteurs. Et Dieu fait ce reproche, non pas, je pense, dans le sens de détruire, non pas dans le sens de dire, vous ne valez rien, c'est fini, vous ne valez plus rien. Heureusement que Dieu est là en la colère. Hein. Et, mais il dit ça pour interpeller le peuple. Et moi, je pense que dans les... Je ne vais pas suivre trop mes notes, parce que je m'aperçois que ça me cadenasse. Mais moi, je pense que dans les temps que nous vivons, dans les temps que nous subissons, d'une manière ou d'une autre, qui ne sont pas non plus, il ne faut pas exagérer, on peut être soigné, on peut être protégé, il faut faire attention de ne pas tomber aussi dans une forme de déprime totale. Mais ce qui se passe, c'est que dans ces temps où nous vivons, nous pouvons facilement nous enfermer sur nous-mêmes, on est assez mis à distance, on est assez mis muselé d'une certaine manière, mais ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, parce que c'est nécessaire. Mais par contre, nous pouvons rester un petit peu fermés sur nous-mêmes et avoir un cœur qui s'étiole dans la foi. On croit au Seigneur, mais le cœur n'y est pas vraiment. On peut se laisser détendre un petit peu quant à la distance avec Dieu. Et alors on dit honorer Dieu, mais c'est superficiellement et en apparence. Mais la Bible dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, comment ? Pas en apparence, pas de temps en temps, pas que le dimanche, mais de tout ton cœur. Je sais que nous savons ça. Et je ne pointe pas ça pour dire, on ne vaut rien, tu ne vaut rien, mais je parle en premier. Et je veux nous encourager, et je crois que Dieu veut nous encourager à réfléchir à cela. Alors je vais prendre deux exemples bibliques de situations qui se retrouvent concomitantes dans le passage, et on va y réfléchir ensemble. Je sais que vous connaissez ces passages, mais j'aimerais voir justement comment ces deux personnages honoraient Dieu, et je dirais c'est un exemple bon pour nous, et je voudrais que le Seigneur nous encourage à continuer dans la course avec le Seigneur sur cette carrière qui nous est ouverte. Alors on va aller dans le livre des Nombres. C'était pas l'introduction. Livre des Nombres, chapitre 14. Nombres, chapitre 14. On va lire quelques passages de ce chapitre. Donc, je vous invite à garder la référence accessible rapidement. Nombres, chapitre 14, verset 1er. Verset 1er, juste au préalable, auparavant, au chapitre 13, c'est les espions qui reviennent. Et au chapitre 14, pour les espions qui sont allés en Canaan, hein, voire pendant 40 jours, de quoi ils retournaient dans ce pays qu'ils devaient conquérir. Alors si vous regardez, je fais cette parenthèse-là, si vous regardez dans la Bible, à savoir, est-ce que c'est Dieu qui les envoie ou est-ce que c'est eux qui y sont allés? Il y a deux versets, il y en a un qui dit c'est Dieu qui les envoie, et dans un autre passage, on en parlait avec Jonathan dernièrement, c'est eux qui avaient décidé de demander à Moïse d'envoyer des espions. Donc c'est difficile des fois de savoir jusqu'au bout, et quand on lit la Bible, soyons prudents, avant d'affirmer quelque chose, de le vérifier. Au verset 1er, « Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays? Pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Ils se dirent l'un à l'autre, « Donnons-nous un chef, retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Puis je vais passer un peu plus loin, verset 10. Alors que Caleb a pu s'exprimer, verset 10, « Toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le déposséderai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta force. Ils diront aux habitants de ce pays, ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais face à face, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur eux, que tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré, en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bienveillance, il pardonne la faute et le crime, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Et il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple selon la grandeur de ta bonté, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, qu'est-ce qu'il dit ? « Je pardonne comme tu l'as dit. » Amen. On s'arrête là, sur ce passage. Ici, environ 600 000 hommes, d'accord ? Qui sont, qui composent le peuple. Alors on imagine les femmes et les enfants. Donc un peuple nombreux. C'était pas, je sais pas, quelques centaines de personnes, 600 000 personnes. Le compte rendu est fait des espions. Ils reviennent vers le peuple. Et là, tout le monde est là. Alors bien sûr, ça devait être compliqué de vraiment bien entendre. Ils n'avaient pas de sono, ils n'avaient pas de zoom, ils n'avaient pas de toutes ces choses qui des fois nous barbent, mais qui sont quand même pratiques. Hein. Donc 600 000 personnes. Mais encore une fois, face à ce qui est dit, le peuple murmure Et si vous lisez, bien sûr, l'Ancien Testament et surtout le Pentateuque, vous apercevrez de tout ça. Le peuple murmure, il gémit, il pleure, il ne veut pas vraiment obéir à Dieu parce qu'il regarde aux géants, aux forteresses, aux problématiques, à la multitude de difficultés qui sont là. Le peuple est comme impressionné, terrifié. Pourtant, en même temps, on amène quelque part des fruits qu'on a récupérés dans ce temps d'espionnage. Et on les mène là et on nous dit des choses assez impressionnantes d'ailleurs de tout ça. Mais malgré tout, ils se laissent impressionner par tout cela. Hein ? Et pourtant, ils auraient dû être impressionnés par Dieu parce qu'ils sont quand même passés la mer Rouge à sec. Ils ont vu une armée décimée. Ouais, je vais y arriver aujourd'hui, j'y arrive pas. Décimée par la puissance de Dieu. Ils ont vu la colonne de feu, etc. Ils ont vu. Et pourtant, vous voyez, comme quoi, il y a des gens qui disent, si je vois un miracle, je croirai. Tu parles. Là, ils ont vu aussi. Ils ont pas cru pour autant. Pour certains. Hein. Surtout qu'ils se sont laissés impressionner. Alors, je vais pas critiquer les Hébreux du temps parce qu'ils sont bien des êtres humains qui sont enclins à l'incrédulité. L'être humain est globalement enclin à l'incrédulité, parce que son péché l'amène à être comme déréglé. Vous savez, la sonorisation est pour moi un bon exemple. Si Jérémie, qui est la sono, déréglait tout, ce serait très très frustrant pour tout le monde, et ce serait pas clair. Et le péché est comme ce qui a déréglé les curseurs dans nos vies de perception des choses. Et ce péché est là et il envenime le cœur de l'être humain. Et au lieu d'avoir foi en ce que Dieu dit, même s'il voit des choses de la part de Dieu, il est enclin à ne pas croire. Il est enclin à douter de tout et tout le temps. Et nous sommes, nous pas aussi bien qu'Israël, portés à regarder aux difficultés qui nous entourent. Et beaucoup de personnes regardent trop, et pour ma part aussi, si je regarde trop aux difficultés qui nous entourent, eh bien, je vais peut-être laisser les choses, ma communion avec Dieu se voiler. Et alors, au lieu de croire ce que Dieu dit, je crois que ce que je vois, quoi. Et je laisse tout ça rentrer dans ma tête, et ça fait un cocktail là, pas très sympathique. C'est Molotov, et ça va pas bien. Et ça suscite pas la foi. Ça met comme de l'eau sur le feu que Dieu veut me donner. Et ça amène autre chose. Hein? Dieu a voulu nous envoyer le Christ pour nous sauver, nous délivrer et pour nous, comment dire, reconnecter avec Dieu, nous réconcilier avec Dieu, et afin que nous marchions maintenant non pas dans une religiosité, mais dans une relation avec lui. Oui, il y a la vie de ce monde avec tout ce que je conçois, je suis dans la vie active, je fais ceci, je fais cela, mais ma foi me dit que Dieu a autorité sur tout cela. Ce que la Bible dit m'encourage et m'amène à réfléchir. Alors, Dieu veut nous amener par Jésus-Christ à nous faire traverser tout ce cheminement pour nous amener un jour dans l'éternité avec lui. Hein? Mais pourquoi sommes-nous quelquefois abattus? Pourquoi on se lamente parfois? Vous savez pourquoi? Parce que nous permettons aux circonstances de nous voiler Dieu. Nous permettons aux situations de venir s'interposer entre lui et nous. Nous permettons plus à Dieu d'avoir accès parce que nous laissons trop ces choses impressionner nos vies. Je dis pas qu'il faut se couper du monde, la Bible dit pas du tout ça, malgré ce que certains peuvent penser. Non, la Bible dit le contraire. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin, dira Jésus. Ici, c'est terrible, 600 000 bonhommes contre 3. 3, 4, je sais pas. Hein. Moïse, bon, mais lui, il est le médiateur, mais quand même Josué, Caleb. Ils font un rapport, et ce rapport qu'ils font, ça vous imaginez? Allez, 3 contre 600 000. C'est pas mal. Si vous dites, allez, toi, tu vas là-bas, tu as 600 000 bonhommes en face, et tu vas dire ça. Et tu sais très bien que ce que tu vas dire, ça va déranger ces 600 000. Mes amis, je crois qu'on ne serait pas très volontaires. Hein, non, c'est pas vrai? Non, mais vous pouvez répondre, hein, vous avez un masque, mais vous pouvez répondre. On parle de les lapider, là. Vous avez vu? Toute la communauté parlait de les lapider. Ouais, ils voulaient repartir en Égypte, se nommer un chef et on repart. Hein, parce que on préfère là-bas finalement. On était esclaves, on avait embossé comme des fous, mais tant pis. Hein. Ouais, c'est la traduction carayole, ça. Hein. C'est pas marqué comme ça. Pourtant, l'exemple que je veux soulever, c'est celui-ci. On va les lapider, on parle de les lapider. À ce moment-là, la gloire de Dieu se manifeste, d'accord ? C'est incroyable. Et là, ça a dû scotcher les 600 000 qui avaient des intentions. Peut-être il y en avait qui avaient commencé à prendre des pierres, je ne sais pas. Dieu dit qu'il va les détruire par la peste. Dieu dit ça à Moïse, je vais les détruire par la peste. Hein. Et puis toi, Moïse, je vais te faire de toi une nation. Et voilà, c'est quand même assez impressionnant. Mais Moïse ne cherche pas sa justice personnelle. Et c'est en cela qu'il honore Dieu pour moi. Ou son honneur personnel. Il dit pas, ouais, c'est vrai, hein. Pouh, qu'est-ce qui me casse les pieds, débarrasse-moi de ces pauvres gars-là. Ces 600 000, ils me saoulent. Hein. Vire-les. T'as raison, Seigneur, il faut y aller. Non, non, non. Pas une fois, on voit Moïse fléchir ou se laisser interpeller par ça. Il cherche d'abord en priorité le renom de Dieu, l'honneur de Dieu. Il cherche d'abord en priorité vraiment à sauver la situation, à sortir de cette situation par le haut. Hein. Et c'est pas un sentiment passager chez Moïse, parce que si vous vous rappelez le récit du veau d'or, quand Moïse est sur le Sinaï, et qu'en bas ils sont en train de faire le veau d'or, c'est toute la fiesta, là, ça c'est ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Et quand Moïse descend, il est irrité. Hein. Mais vous savez qu'il va quand même dire qu'il va remonter vers le Sinaï encore, il va demander « J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché ». Et Moïse retourna vers l'Éternel, il dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or, pardonne maintenant leur péché », dira-t-il, ça c'est Exode 32-30, « sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit ». Donc on voit bien que Moïse, il n'a pas juste un sentiment passager particulier, mais il a cette mentalité. D'intercéder, de vraiment chercher à gagner, je dirais, à respecter l'honneur de Dieu, mais aussi à donner vie autour de lui. Il n'est pas dans la recherche de son postulat, de sa position. Il ne cherche pas à être quelqu'un en vue. Il ne cherche pas, pourtant il est poussé dans le dos, là. Quand même, il fallait gérer un paquet de personnes, hein, facilement. Et là, il y avait du monde, hein, il devait y avoir un million facile. Hein. Pourtant, à ce moment-là, Dieu lui dit, mais je vais les effacer, mais je te donnerai un renom, toi. C'est un peu ça. Hein. Et il lui dit que sa nation sera plus grande et plus puissante que lui. Et si Moïse, là, avait dit d'accord. Moi, je me suis dit, et s'il avait dit d'accord. Mais Dieu ne s'était pas trompé dans le choix. Hein. Quand il a choisi Moïse, Dieu est souverain. Je ne peux pas expliquer comment il fait. C'est Dieu. Mais Dieu est souverain. Et Moïse honore Dieu. Parce qu'il laisse toujours en priorité l'autorité de Dieu, le respect de Dieu, l'honneur de Dieu dans sa vie. L'intercession de Moïse est remarquable dans ce qu'on a lu. Son intercession, elle est basée sur qui est Dieu. Il rappelle qui est Dieu. Et pourtant, il parle à Dieu. Mais il rappelle qui est Dieu. Sur la recherche du maintien du renom de Dieu, de sa gloire. Il dit, voilà, mais les autres vont l'apprendre, tu te rends compte. Mais comme Dieu le sait, ça. Et ce n'est pas que Dieu, d'un coup, découvre les choses. Ce serait se méprendre sur qui est Dieu. Hein. Il recherche, malgré le bien de son peuple, malgré son péché, ses erreurs, ses murmures. Et ce n'est pas la première fois. Vous savez, quand des fois, les choses sont récurrentes. Au début, vous espérez, puis après, ça revient. Après, vous dites, Et là, il aurait pu, Moïse, tomber dans le désarroi et dire, ouais, c'est vrai que ce peuple, hein, il y a du boulot, hein, on n'y arrivera pas. Hein. Il aurait pu tomber dans une espèce de découragement et dire, ouais, Seigneur, que ta volonté soit faite, en laissant filer. Non, il cherche le bien de son peuple. Et nous voyons clairement ici que Moïse a cherché avant tout l'honneur en intercédant en faveur de son peuple. Et Dieu va exaucer sa prière. Je pardonne comme tu l'as dit. Waouh! Je pardonne comme tu l'as dit. Il y a un passage, et je ne vais pas rentrer sur ce passage, je vais aller assez vite maintenant, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. C'est Dieu qui va parler au vieux prophète Élie. Vous savez, Élie sans œufs à la fin. Hein. Et ce prophète, Dieu lui fait des reproches par rapport à l'éducation de ses enfants, il n'a pas maîtrisé, et il dit de ses fils que c'était des vauriens, ou dans un autre terme, thématique, des pervers. Hein. Et Dieu va dire, à un moment donné, qu'il va rejeter sa descendance à Élie, et il va lui dire ceci, et j'aime cette phrase, « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai celui qui m'honore. » Moïse a honoré Dieu vraiment. Et Dieu honore Moïse en répondant à sa prière, en exauçant sa prière. Et voyez-vous, c'est une attitude, de cœur préalable à la prière. Tout à l'heure, on l'a dit, par exemple, le mari qui honore pas sa femme, s'il ne fait pas ça, quand il va prier, quelque part, c'est un obstacle à la prière. Et dans l'attitude de l'enfant de Dieu, bien sûr, tout est par pure grâce, j'en suis conscient. Mais quand même, Il y a des dispositions de cœur qui favorisent le climat spirituel, le climat de foi, le climat de l'onction. Et ici, quand il est dit des enfants de Samuel, il dira, Dieu lui dit, j'honorerai celui qui m'honore, ben, c'est une réalité encore valable. Et nous sommes invités à suivre l'exemple de Moïse. Hein? Alors, posons-nous cette question, qu'est-ce que je recherche en premier lieu dans ma vie? Mon honneur, ma position, mon bien, mon être, mon épanouissement, ou son honneur, sa gloire? Qu'est-ce que je recherche en tant que chrétien? Et ça, c'est nécessaire de se poser la question. Et moi, les exemples là d'intercession de Moïse, ça me touche. Et à chaque fois que je les lis, ça me parle. Je me dis, bon, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre, t'as encore du boulot, mon gars. Mais je me dis, c'est pas par mes efforts seulement, c'est par ta grâce, Seigneur. Puis, l'autre personnage, on continue, et je vais terminer par celui-ci, au chapitre toujours 14 des Nombres, et à verset 24. Dieu va parler de Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb, donc cet homme qui a fait un rapport, lui dit, allons-y, allons comme Dieu le dit dans le pays, hein, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu, et sa descendance en prendra possession. Nous savons, selon ce que la Bible dit, qu'il y a que deux personnes qui sont rentrées dans le pays promis, Josué et Caleb, les deux qui ont cru à ce que Dieu en dit. Les deux qui, sur trois, parce que Moïse, pour une autre raison, il n'a pas pu rentrer dans le pays promis, les deux qui ont cru, mais ces trois qui se sont présentés devant tous les 600 000 hommes et qui ont dit, il faut y aller, ben et voilà, ils sont rentrés. Donc on voit bien que la loi du nombre, mes amis, la majorité, souvent on vote à la majorité, mais pour les choses spirituelles, nous ne votons pas la majorité, parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas biblique. Alors on continue là-dessus. Ici, il nous est dit de Caleb, il a un autre esprit. Il a pleinement suivi ma voie. Honorer Dieu en démontrant une confiance supérieure à ce que Dieu atteste, promet, par rapport aux circonstances et aux déductions intellectuelles, aux perceptions justes parfois du contexte qui est dépeint. Hein, je le répète parce que des fois vous dites, ouais, oui, voilà. Honorer Dieu en démontrant une confiance supérieure à ce que Dieu dit, bien plus grande qu'à ce qu'on peut percevoir avec à partir de notre intellect, de nos yeux et de nos perceptions humaines, de notre connaissance intellectuelle. Ce que Dieu dit est bien au-dessus de ce que les hommes peuvent penser et découvrir. D'ailleurs, Dieu dit des choses, vous le savez, dans la Bible, Dieu a dit des choses qu'on a découvertes que dans le siècle passé, où on nous découvre encore. Hein, c'est le globe de la Terre, vous savez que la science pourrait développer ça, il y a plein de choses qui sont dans la Bible, on a fait tout un tas de remis en question la parole, mais la parole dit des choses qu'on découvre à peine maintenant. Par exemple, le chant des étoiles, c'est qu'au siècle dernier qu'on a compris que les étoiles émettaient un son particulier, et on pourrait développer plein de choses. Alors je ne dis pas ça pour justifier Dieu, mais pour dire que Dieu est souverain, et quand Dieu parle dans sa parole, mes amis, c'est digne de confiance. Bien plus que ce que tous les organismes qui font des sondages ou des recherches peuvent dire. J'ai rien contre la science et je respecte les scientifiques, mais je voudrais aussi dire que je veux respecter celui qui a tout créé et qui est bien au-delà des hommes. Suivre pleinement la voie de Dieu, c'est mettre toute sa foi dans le plan de Dieu. Ce que les hommes disent, et même nous pasteurs, hein, peut être parfois remis en cause. On peut remettre en cause tout ce que les gens nous disent. Je ne dis pas d'être dans la crainte, dans le complotisme, etc. Mais je parle, on peut remettre les choses en cause. Mais ce que Dieu atteste et promet dans sa parole est digne d'une totale confiance et d'une confiance aveugle. C'est le seul, à mon avis, endroit où on peut placer une confiance aveugle et assurée. Bien sûr, cela impose que quand je lis la parole de Dieu, je la lis d'une manière bien comprise. Il y a des gens, ils ont fait des slogans de certains versets, mais vous savez, les sectes, elles disent des slogans à partir de versets bibliques, hein, mais elles partent à l'extrême en oubliant tout le reste. Et si tu fais ça, tu te mets dedans, hein, ça c'est clair. Par contre, la Bible, on la prend et si je la lis dans une manière intelligente, puis aussi je demande à Dieu sa direction, elle va me permettre de me stabiliser, de comprendre, et ma foi va être motivée. 600 000 hommes contre 3, hein, c'est incroyable. 600 000 hommes qui ne croient pas, qui sont incrédules contre 3 qui osent croire, qui osent faire confiance et qui honorent Dieu. Jésus dira, dans Jean chapitre 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » D'accord ? Ici, c'est comme si Jésus disait, si tu me crois et tu me suis vraiment, tu me sers, selon ce que je dis dans la parole, parce qu'il y a aussi beaucoup de passages qui parlent du fait de demeurer dans la parole, si quelqu'un me sert, c'est de cette manière-là, mon Père l'honorera. Ça veut dire, il ne se trompe pas, il n'est pas à côté de la plaque, il ne fait pas n'importe quoi, mais le Père céleste va agir, et va, parce qu'il se met en conformité à ce que la Bible dit. Il croit ce que la Bible dit, donc il se met sur le terrain de la foi et il reçoit de Dieu. Alors je ne dis pas reçoit, il a des médailles, il reçoit tout ce qu'il demande, il a, non, je ne dis pas ça. Mais le Père l'honore dans le sens où il va le remplir de son esprit, il va l'amener à aller plus loin dans la foi et avoir une autorité spirituelle. Parce que des fois on parle d'autorité spirituelle juste en ayant des théories, mais la réalité c'est le cœur que j'ai en ces choses. C'est ce qu'ils ont fait en s'opposant à la multitude. Ils ont vraiment servi ces trois, servi le projet de Dieu, le plan de Dieu. Et aussi, je dirais, même quand on voulait parler, on parlait de les lapider. Quand on veut servir Dieu, vous remarquerez, les circonstances sont souvent humainement très défavorables. Le contexte n'est jamais favorable au service de Dieu. Si vous attendez que tout soit bien pour servir Dieu, vous ne servirez jamais Dieu. Parce qu'on le voit, et c'est biblique ça aussi, on le voit, à chaque fois qu'on veut servir Dieu, on sera parfois méprisé, menacé, rejeté par la famille, oppressé, et parfois seul, face à plusieurs qui vont décrier ce que vous dites. Alors, attention, si c'est des chrétiens, d'autres chrétiens, réfléchissez. Hein. Mais quand je veux servir Dieu, quand tu veux servir Dieu, en étant fidèle, en étant vivant, dans la foi, en croyant, tu verras qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui s'oppose. Il y a des gens qui s'opposeront parce que ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Parce que ce n'est pas logique dans le cœur de l'être humain pécheur, il est inconscient. Et quand on était dans le péché avant, on est devenu chrétien, non pas parce que nos parents étaient, hein. On est devenu chrétien, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on était mal, je ne serais pas là, mais on est devenu chrétien parce que Jésus s'est révélé. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert dans notre tête. Ce n'est pas la religion de nos pères qui nous sauve, c'est la vraie réconciliation avec notre Père céleste par Jésus-Christ. En tous les cas, seulement Caleb et Josué ont pu entrer dans le pays promis. Et ça, ça nous parle. Ça nous parle, n'est-ce pas? Et nous sommes invités à entrer dans un pays qui est promis, mais qui n'est pas d'ici-bas. Notre patrie est céleste, hein, et elle nous invite à aller plus loin. Alors je vais lire ce passage d'Hébreux 3, verset 16. Vous pouvez le lire si vous voulez avec moi. Et on va aller jusqu'au chapitre 4, verset 2, qui résume un petit peu ces choses. Hébreux chapitre 3, verset 16. C'est dans le Nouveau Testament, hein, bien sûr. Et l'Épître aux Hébreux rappelle la position de Jésus. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et puis au verset 2, car cette bonne nouvelle, du chapitre 4, hein, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas dans la foi chez ceux qui l'entendirent. Voilà. Donc, vous voyez, ici, il y a un résumé. Il dit, pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le pays promis? Parce qu'ils ont été incrédules. Ils n'ont pas cru ce que Dieu a dit, malgré les démonstrations, les fruits, etc. Ils n'ont pas cru. Et la bonne nouvelle leur avait été annoncée à d'autres aussi, comme à Josué et Caleb. Mais eux, ils sont entrés parce qu'eux, ils ont cru. Mais eux, ils n'ont pas trouvé de la foi, hein, parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Eux, ils n'ont pas, voilà. Et la disposition de cœur qui honore Dieu, c'est la foi. La Bible dira, et dans l'Épître aux Hébreux, vous le savez, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et la foi, ce n'est pas une logique, ce n'est pas de l'intellect. Plein de gens cherchent Dieu par l'intellect. Bien sûr, quand on ne sait pas, on cherche comme on peut. Mais voilà que Dieu se révèle dans notre esprit, par ce qu'on a chanté, cette croix, hein, ce qu'on a rappelé qui est essentiel, la croix de Jésus. Je conclue, les dispositions de cœur qui honorent Dieu, c'est rechercher en premier lieu, honorer Dieu, à vraiment rechercher son honneur, à le respecter, à l'aimer de tout son cœur, en manifestant une confiance, et ce second point, total à Dieu. Malgré les inconnus terribles, parfois, malgré les menaces, les oppressions. Une citation d'un lors de la réforme d'un protestant qui a eu un impact assez particulier, surtout en Suisse romande, c'est Guillaume Farel. Il va dire ceci, que ma vie soit l'honneur et louange de Dieu et au profit du prochain. Je crois que ça résume tout. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. On va courber nos fronts, on va prier. On ne va pas faire d'introduction saine parce que je voulais que justement rebondir par rapport à ce qu'on vient de partager. Alors qu'on est recueilli ici, s'il est difficile et si ces temps-ci pour vous, ça l'a été pour moi il y a quelque temps en arrière, mais si c'est difficile pour vous d'être vraiment dans le fait d'honorer Dieu pleinement, avec un cœur vrai, je vous invite, pas moi, mais je crois que l'Esprit de Dieu nous invite à nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Et comme nous l'avons chanté, j'ai apprécié chanter ces chants, c'est à la croix, c'est parce que Jésus a fait cette œuvre que je peux vivre pleinement. C'est parce qu'il est mort qu'il me donne la vie, c'est parce que j'étais pécheur qu'il a porté mon péché, qu'il m'a délivré, et c'est ce qui me réjouit. Je ne mérite rien, mais je bénis le Seigneur de son amour. Et nous voulons, avant de prendre le pain et le vin, prier, chercher Dieu. Et je voudrais encourager celui, celle qui dit « mais je n'arrive pas à honorer Dieu pleinement, je suis à côté, je ne me sens pas bien ». Ne t'accable pas pour t'accabler. Repends-toi et cherche Dieu. Reviens à Dieu. Tu ne pourras pas par tes forces te changer, mais viens vers celui qui donne la vie et la vie en abondance. Viens chercher. Viens t'humilier devant lui. Le Seigneur se plaît à ce qu'on soit vrai. Il n'a rien à faire de nos faux-semblants. Il a juste besoin que nous disions, voilà, tu veux que je sois vrai avec toi. Alors, je ne vais pas demander que vous le fassiez là publiquement, c'est personnel, c'est individuel, ça nous regarde. Mais je crois que le Seigneur veut ranimer cette communion avec ton cœur. Je crois qu'il veut redonner vie à peut-être ces choses qui sont tellement mal en point ces temps-ci à cause de ce contexte. Oui, que la foi reprenne le dessus, que dans notre cœur, vraiment le Seigneur ait toute la place. Nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour qui tu es. Et comme nous l'avons dit, nous voulons te rendre l'honneur qui t'est dû, non du bout des lèvres, non par des pratiques, non par des théories, mais avec un cœur vrai. Un cœur qui est dénué de faux semblants, et si nous pouvons mettre des filtres entre nous en tant qu'humains, nous voulons devant toi ne rien cacher. Ta parole dit que tout est à nu et à découvert. Et tu pourrais nous mépriser, mais tu nous aimes par-dessus tout. Et à chaque fois, tu as voulu sauver le peuple de son désarroi, de son mauvais pas. Tu lui as donné encore une possibilité de se relever. Et ce matin, nous voulons nous rappeler qui tu es et dire que tu es grand, notre Dieu. Et tu l'as démontré en donnant ton Fils pour chacun d'entre nous. Tu aurais pu nous laisser dans notre péché, dans notre erreur, dans nos errances et dans notre bourbier. Mais tu as envoyé ton Fils justement pour nous amener à la vie, pour nous purifier, nous transformer. Et si nous pouvons aujourd'hui dire que tout est par pure grâce, nous voulons aussi dire, Seigneur, maintenant que nous te connaissons, nous voulons t'honorer en esprit et en vérité. Nous voulons d'abord chercher ton honneur en toute chose, et nous voulons aussi, Seigneur, nous comporter comme tu l'entends dans ce monde. Fais-nous grâce en cela. Merci pour ce moment, merci pour ce que tu nous accordes. Alléluia. Alors on va prendre ce pain ensemble, pour ceux qui l'ont. On va prendre ce pain, la Bible dit, de faites ceci en mémoire.